nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Pour une formation intégrale de la jeunesse congolaise.
Pour la promotion des valeurs humaines, sociales, religieuses et culturelles.
Pour une jeunesse consciente, engagée et protagoniste du présent et du futur.
Suivez chaque samedi à 15h30.
L'émission Jeunes pour Jeunes
sur les ondes de Radio Maria
89.9 MHz.
Chers amis, chers auditeurs et auditrices de la fréquence maternelle, chers internautes, bonjour. Nous avons la joie de vous retrouver une fois de plus à travers cette voie des ondes autour de notre émission Jeune pour Jeune. Et les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui s'intitulent de la manière suivante. Le jeune face à la pauvreté ou les jeunes face aux pauvres. C'est ça en fait le thème. Et d'entrée des jeux, je voudrais dire que le choix du thème se justifie entre autres par le fait que demain, c'est la journée mondiale des pauvres. Demain, c'est la journée mondiale des pauvres avec pour thème « C'est toi mon espérance ». Psaume 71, 5. On comprend que c'est dans le contexte de l'année jubilaire 2025, pèlerin d'espérance. Et le message central de cette journée, c'est « Les pauvres sont les témoins d'espérance et leur accompagnement est un acte de justice ». Et ça tombe bien parce qu'il n'y a pas plus tard que le mois passé, précisément le 4 octobre, en la mémoire de Saint François d'Assise, le pape Léon XIV a signé sa première exhortation apostolique d'illexité, dédiée en fait aux pauvres. Voilà, c'est à juste titre que nous avons choisi ce thème, les jeunes face aux pauvres. Et nous avons la joie de recevoir toujours et déjà l'infatigable, notre frère Rifin Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Frère Rifin, bonjour.
Bonjour, frère Omer.
Et bienvenue.
Merci.
Le frère Rifin est rédacteur en chef de la revue L'Avenir des Jeunes. Nous avons la joie de le recevoir. Frère Rifin.
Frère Omer.
Vous êtes philosophe et avant d'aborder un sujet, avant d'aborder un point, c'est toujours important de définir les concepts. C'est toujours important de dire aux gens, vous voulez parler de quoi et ça signifie quoi? C'est sur quoi vous voulez parler. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous définir ce que c'est la pauvreté? C'est quoi la pauvreté d'après vous? C'est vrai qu'on parle des jeunes face à la pauvreté. Les jeunes qui nous suivent, ils savent déjà ce que c'est un jeune, ils savent.
Ouais.
Alors, la pauvreté, c'est quoi? C'est quoi la pauvreté?
Bon, en des termes simples, la pauvreté, c'est un état d'une personne dépourvue soit des biens matériels, soit de quoi? De la justice, de la dignité. Et l'ensemble de tous ces manquements, c'est ce qu'on peut appeler pauvreté.
Oui, donc la pauvreté, ce n'est pas seulement ne pas avoir de l'argent, manquer,
non.
Sinon le matériel, c'est plus que ça.
Ça, c'est une des formes de la pauvreté.
Une dimension de la
pauvreté.
Oui. C'est plus que ça.
C'est ça, c'est plus que ça. C'est au-delà de ça.
Merci, mais certainement vous... Vous rencontrez des pauvres autour de vous.
Effectivement.
Vous rencontrez des pauvres autour de vous. Peut-être que où vous vivez, c'est vrai que vous êtes religieux, mais certainement que où vous vivez, même si les gens disent que les religions ont beaucoup d'argent, mais où ils sont bien, mais même dans nos communautés, on sait qu'il y a des pauvres.
Effectivement.
Peut-être que des gens qui manquent l'affection, les gens qui ont une certaine carence spirituelle, les gens peut-être qui sont en crise, qui sont en difficulté.
Effectivement.
Donc la pauvreté, c'est un tout, c'est tout ça.
Ah, ouais.
Il faudrait qu'on se mette d'accord dès le départ. Et puisque je le disais tantôt, le pape Léon XIV a signé Dilexité, j'étais aimé, et j'ai parcouru cette exhortation apostolique au numéro 4.
Ouais.
Hein, il dit qu'aucun geste d'affection, même le plus petit, ne sera oublié, surtout s'il est adressé à ceux qui sont dans la souffrance, dans la solitude, dans les besoins.
Ouais.
Aucun geste d'affection, même le plus petit, ne sera oublié. Frère Ruffin, vous pensez que c'est ce message du pape qu'on retrouve au numéro 4 des Dilexité est encore d'actualité? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, marquée par l'indifférence.
Oui.
Mais est-ce que pensez que c'est encore d'actualité le fait de poser des gestes d'amour? Pensez quand le pape dit que ne sera pas oublié pour un jeune Quinois, un jeune Congolais qui nous suit, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Merci, c'est une bonne question. Et j'aimerais aussi, comme vous avez cité le numéro 4 des Dilexité, vous allez voir que vous allez vous rendre compte qu'avant cette citation, il a donné l'exemple de la femme qui était venue trouver Jésus et commencer à essuyer ses pieds avec de parfums et aussi essuyer avec ses cheveux. Alors, ces gestes, interprétés de plusieurs façons, montrent comment la préoccupation faite de la femme qui avait vu en Jésus l'image d'un pauvre. Et alors, le pape va venir commenter et c'est cette citation que je vais admettre ici. Il dit « Ceux qui souffrent savent combien même un petit geste d'affection peut être grand et quel soulagement il peut apporter. » Alors, dans notre contexte ici, parfois le contexte d'indifférence, pour ceux qui souffrent dans les vrais, pour ceux qui traversent des moments difficiles, même la simple proximité est un apport capital pour leur soulagement. Donc, c'est un message actuel, qui a son sens et sa signification dans notre contexte aujourd'hui. C'est vraiment un message à intérioriser, à approfondir et surtout à comprendre.
Merci, Frère Ruffin. C'est très important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire pour celui qui souffre, pour celui qui traverse des moments difficiles, pour un pauvre, celui qui en manque, lorsque vous lui venez en aide, ça reste.
Oui.
C'est comme pour lui quelque chose d'inoubliable. Hein? Il garde ça comme quelque chose de bien qu'il a reçu de vous. Mes frères Yvan, s'il vous plaît, on reste là. Je voudrais quand même que vous puissiez aider les jeunes qui nous suivent parce qu'il y en a aussi qui se sont dit je ne pourrai plus apporter mon aide à tel ou à tel autre.
Oui.
Hein? Soyons concrets aussi. Mm-hmm. Il existe aussi des ingrats.
Oui.
C'est-à-dire des gens à qui on a apporté de l'aide, mais qui, en retour, n'ont pas été reconnaissants ou n'ont pas manifesté cette gratitude.
Oui.
C'est pas qu'on a toujours voulu que ces gens nous rendent l'appareil ou qu'ils rendent l'appareil à ceux qui leur sont venus en aide.
Oui.
Mais quand même, ne serait-ce qu'un merci, un signe de gratitude. Alors, à ces gens-là qui peut-être n'osent plus venir en aide à ceux qui manquent, à ceux qui souffrent, parce qu'ils ont été déçus à cause de l'ingratitude, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Moi, je pense que le message serait adressé à ces ingrats, à ces gens qui ne savent pas reconnaître le bienfait. Parce que si vous vous référez, bon, il y a beaucoup, il y a le message évangélique d'ailleurs qui nous apprend que la reconnaissance nous fait gagner non seulement la guérison, mais le salut, le paradis. Alors, demandez à ces jeunes qui se découragent parce qu'ils ont été déçus par l'ingratitude ou peut-être par tout autre crime aussi, parce que parfois tu aides quelqu'un et en retour, il va comploter et venir te tuer. À ces gens-là, moi, je dirais que le but de leur aide, d'abord, doit être précisé. Si vous aidez vraiment dans toute sincérité, ils ne font pas arrêter, continuez à venir en aide, même si vous récoltez l'ingratitude. Oui. Et si vous savez en qui vous mettez votre espérance, votre foi, en aidant quelqu'un qui est en difficulté, qui traverse des moments difficiles, même si cette personne-là ne vous remercie pas, n'est pas reconnaissant envers l'acte que vous avez posé, mais le Seigneur en qui vous mettez votre confiance, votre espérance, foi, oui. Vous viendra en aide, se souviendra des actes que vous posez. Parce que si on doit suivre seulement ceux-là qui nous sont reconnaissants, nous ne saurons pas transmettre le message de l'Évangile. Parce qu'en transmettant le message de l'Évangile, nous devons être aussi capables de supporter les ingratitudes.
Merci. Frère Ruffin, vous allez me permettre qu'on en reste là.
Oui.
Parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Et ça donne encore d'autres perspectives.
Oui.
Vous venez de dire que peut-être il y en a aussi à partir de votre aide,
ouais,
qui peut vous faire du mal.
Effectivement.
Je vais prendre un cas concret. J'étais à bord d'un véhicule,
oui,
avec un ami et il y avait une maman à côté. Une maman tout au long de la route,
oui,
qui demandait de l'aide. Elle voulait qu'on la prenne dans le véhicule,
mm-hmm,
et peut-être qu'on l'amène. Alors, l'ami m'a clairement dit que non, moi, je n'ai même pas ressources ou batuna, n'a tiré sous batua bouena mutukana, les inconnus, parce, ouais, que outre le fait que quelqu'un qu'il connaît a été victime, disons l'a accusé d'avoir peut-être harcelé une femme, parce que,
oui,
La personne avait pris la femme au bord de son véhicule,
mm-hmm,
et après ça lui a apporté préjudice.
Ouais.
Alors, dans ce contexte-là, vous pensez que nos jeunes, peut-être qui sont véhiculés, doivent aussi suivre ce que l'ami m'a conseillé ou son point de vue, c'est-à-dire, vous voyez des gens sur la route, peut-être qui souffrent,
mm-hmm,
peut-être qu'il n'y a pas de transport, et toi, tu es véhiculé.
Mm-hmm.
Et dans ton véhicule, il y a assez de place. Mais tu ne sais pas prendre déjà parce que tu ne sais pas tu prends qui. Mm-hmm. Peut-être la personne va vous causer du tort, comme vous venez de le dire. Ou peut-être qu'après ça va mal tourner.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Apparemment, c'est un peu... C'est, oui, complexe. Hein?
Ouais.
Excusez-moi, mais je voudrais quand même avoir votre point de vue. Oui.
Je trouve que c'est un thème transversal.
Mm-hmm.
Dans la mesure où... il englobe beaucoup de choses, donc beaucoup de choses entrent en jeu. Parce que premièrement, tout acte que nous posons, donc nous acceptons, nous nous engageons, nous choisissons de prendre le risque. Tout acte que nous posons, chaque décision que nous prenons, nous acceptons de prendre le risque. Alors, accepter de prendre le risque, c'est aussi accepter d'assumer les conséquences qui découlent de ces risques que nous prenons. De même, aider les pauvres, aider les personnes en difficulté, c'est aussi prendre le risque. Par exemple, pour cette personne qui a été accusée d'harceler la personne qui l'a aidée, c'est l'une des conséquences de l'amour qu'on peut avoir. Non seulement cela, il peut y arriver aussi, vous faites l'accident. et vous allez payer beaucoup. Mais il faut savoir que chaque acte que nous posons renferme un certain risque. Et il faut être capable d'assumer ces risques. Dans ces cas, lorsque vous vous retrouvez dans cette circonstance où vous voulez aider, donc vous avez à décider. Soit vous refusez d'aider parce que quelqu'un d'autre a déjà fait une expérience mauvaise, donc vous vous attribuez son expérience.
Vous faites de l'induction.
Voilà, de l'induction, alors que vous laissez cette personne mourir. Ou encore, vous décidez de prendre le risque en ayant en tête que je m'engage, même tout ce qui va m'arriver, ça m'arrivera en pleine liberté, en pleine conscience. Et c'est cela. Moi, j'invite les jeunes qui nous suivent, qui se trouvent face à cette situation, de savoir prendre le risque, de savoir se décider, de savoir délibérer, et écouter surtout son cœur, écouter son cœur. Parce que lorsqu'on est devant une situation, le cœur nous suggère toujours une idée. Mais malheureusement, il nous arrive de ne pas écouter ce que le cœur nous suggère. Alors que le cœur voit mieux que nos yeux physiques. Voilà pourquoi j'inviterai à ces jeunes-là à écouter ce que le cœur leur dit, leur chuchote, leur murmure, et poser l'acte en pleine liberté, tout en étant capable d'assumer les circonstances qui peuvent découler de cet acte posé.
Merci beaucoup, frère Ruffin, c'est-à-dire à ceux jeunes qui nous suivent. S'il nous arrive de prendre les risques pour certaines choses, par exemple, nous voulons avoir un habit, malgré la pluie, mais nous sortons quand même pour aller chercher cet habit-là. Nous savons que généralement dans nos concerts, parfois il y a des problèmes de sécurité. Parfois les stades sont inondés, mais nous y allons quand même. Et pourquoi pas aussi prendre des risques quand nous voulons accomplir le bien. Et c'est très intéressant parce qu'il y en a peut-être qui ont arrêté, qui ont pris cette décision-là de ne plus faire le bien. Pourquoi? Parce que ils ont été payés à monnaie de singe. Mais le bien, vous devez le faire en temps et à contre-temps. Galates 6, 9, ne vous lassez pas de faire le bien. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, frère Ruffin.
Merci.
Autre chose, c'est que parfois, pas qu'on a envie de faire le bien, mais on reste seulement au niveau émotionnel. Quelqu'un peut être en difficulté, peut-être qu'il n'a pas de moyens, ou peut-être qu'il est malade, ou ils sont endeuillés. Les personnes qui traversent des moments difficiles, c'est-à-dire... Et nous sommes là seulement, nous nous arrêtons au niveau émotionnel. On se dit, on fait comme une compassion théorique, mais sans geste concret. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes? C'est-à-dire, comment on peut manifester de la vraie compassion qui ne reste pas seulement au niveau théorique? On se dit, Akoufela qui mawen, Azanambongo, y a Minerval, y a Fraise Académique, mawa. Bon, on manifeste la compassion, la pitié, mais comment être beaucoup plus concret? Comment compatir concrètement face à ce genre de situations?
Merci. Sans minimiser la vie psychologique émotionnelle qui est aussi importante, cette vie, cette dimension de la vie, moi je dirais tout simplement, il faut maintenant rentrer au message principal de l'exhortation que vous avez citée au début, qui dit l'excité. J'étais aimé. Donc, rentrer à l'amour. Une compassion accompagnée de l'amour te suggère l'idée d'être concret. Par exemple, une personne qui traverse cette difficulté, par exemple, de Minerval, n'a pas payé, alors que toi, tu as cet amour, cette compassion, tu aimes, cet amour te poussera à trouver une solution concrète, soit contribuer à ses études, soit brancher la personne dans une, au fait, dans une, dans une chose digne qui puisse l'aider à se trouver quelque chose. Donc moi je pense être concret, ce n'est pas seulement par exemple, parce qu'on risquerait aussi de tomber dans le donner seulement matériel, sans affection, sans compassion, et ça aussi ce n'est pas bien. Moi je pense qu'il fallait prendre les deux, donc avancer avec les deux, la compassion mais aussi la réaction pratique. Quelqu'un a un problème d'argent, n'arrive pas là avec beaucoup de théories. Si tu as un peu d'argent, donne-lui l'argent. Et agis comme ça. Quelqu'un a besoin de la proximité. Il y a parfois des troubles qui demandent à quelqu'un de se défouler en parlant. Parler. Sois là, écoute-les et puis dis-lui seulement peut-être une parole. Pose un geste et ça va passer. Donc, savoir aimer sincèrement, mais aussi savoir identifier la situation de la personne et agir conformément, proportionnellement à cette difficulté. Pas la personne a un problème économique, tu viens avec trop de théories. Non, si tu as l'argent, donne-lui et puis tu peux maintenant accompagner cet acte concret avec des paroles.
Merci Farif. Autre chose aussi, parce que quand on parle de pauvres, généralement, oui. on même nous qui sommes là, oui. on peut être tenté de croire que les pauvres, ce sont les autres. Voilà. Comme si ceux qui manquent, peut-être ceux qui n'ont pas mangé, tout ça. Mais on oublie que nous aussi, hein, dans une certaine mesure, oui. nous sommes peut-être des pauvres. Quoi, je l'ai dit parce que dans son exhortation,
oui.
le pape dit, entre autres, que la pauvreté doit être analysée, comprise dans les contextes des possibilités réelles, des moments historiques concrets.
Oui.
C'est vrai que lui, il avait pris l'exemple de l'électricité. Oui, lui, il avait pris l'exemple de l'électricité, mais moi, ici, je vais proposer l'exemple de l'électricité. C'est-à-dire, avant, si l'Internet était un luxe, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas l'accès à l'Internet, une bonne connexion, vous pouvez être assimilé à un pauvre. C'est déjà un mal par rapport à l'évolution du monde. Et c'est aussi comme ça qu'on devrait voir qui est pauvre ou pas.
Ouais.
Alors, aujourd'hui, les jeunes manquent beaucoup de choses qu'ils devraient avoir. L'accès facile à l'Internet, l'accès facile aux soins. Parce que le monde évolue.
Oui.
Quand vous allez ailleurs, vous allez vous rendre compte que ces histoires-là, c'est déjà résolu, déjà résolues. Mais aujourd'hui, on marque le pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces jeunes qui nous suivent? C'est-à-dire par rapport à l'évolution du monde, à l'évolution de la modernité. Et quand ils regardent ce qu'ils traversent, comment est-ce qu'ils vivent cette évolution-là? Comment est-ce qu'ils sont en retard par rapport à la modernité? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Doivent-ils revendiquer? Si oui, comment peuvent-ils le faire? Comment peuvent-ils revendiquer leurs droits? Peut-être pour passer de cette pauvreté-là qu'ils ignorent à... au mieux-être, en fait.
Oui, merci. C'est une question pertinente, mais aussi d'actualité, parce que là, vous avez pris l'exemple d'Internet, mais je vous rassure que dans le contexte de la RDC, vous allez voir que même l'eau, il y a des contrées où même l'eau pose problème. Oui. Il y a pas de routes où les gens meurent par manque de soins. Et tout ça, c'est une pauvreté. Dans des villes, nous avons des coupures à tout moment. Des recherches, nous avons du mal à effectuer des bonnes recherches parce que vous quittez à l'université à 16 heures juste, vous arrivez chez vous à 20 heures fatigué.
Oui.
Vous ne savez pas faire des recherches, vous ne savez pas lire. Et cela nous met en retard par rapport aux étudiants d'autres cieux qui ont un peu cette facilité des transports, ainsi de suite. Alors, à ces jeunes-là, moi, je dirais, il faut rester focus, travailler, Et comment le faire dans un contexte où on ne vous donne pas cette possibilité? Ça devient la grande question. Alors, pour ce faire, il faut tout d'abord commencer avec les petits pas. Donc, il y a ce que nous pouvons changer, ce que nous pouvons demander aux autres de changer, et ce que nous pouvons changer en groupe comme société, comme génération, et tout consort. On peut développer, par exemple, un système des panneaux, par exemple, pour ceux qui ont des difficultés d'électricité. On peut se trouver au moins peut-être des panneaux et puis subvenir aux besoins des lectures nocturnes, et ainsi de suite. Mais avec les problèmes d'Internet, moi, je pense qu'une simple revendication ne suffit pas. Je pense qu'il fallait engager un dialogue, proposer, parce que parfois on se plaint en cours de route dans des quartiers, mais nous ne savons pas saisir les personnes capables de nous aider. Par exemple, parler avec les ministres de la jeunesse, lui exposer les problèmes, parler avec les personnes compétentes, bien placées, qui puissent réagir. Parce que si on va revendiquer, oui, la revendication, ça va, mais il faut comment le faire. Et avec tout ce que nous vivons dans notre pays, en tout cas, moi, je pense que la sagesse serait de proposer. Il y a des groupes, je connais des groupes qui existent, les associations des jeunes qui proposent. Et c'est parmi ces jeunes-là que nous avons des ministres, ces jeunes-là qui évoluent et puis deviennent ministres. Mais lorsqu'ils ont des bonnes questions et des bonnes propositions, je pense qu'on peut améliorer. Mais parfois, nous ne nous rendons pas compte de cette calamité que nous traversons. Et on normalise ce qui est anormal et c'est un problème. Voilà, donc nous devons prendre en charge cette question, la prendre au sérieux et savoir qui, où, comment trouver la solution. Parce que je ne peux pas venir les problèmes qui concernent, par exemple, le président de la République, l'exposer auprès de toi qui est étudiant en théologie. Je n'aurai pas de solution, donc ça serait des bavardages. Alors, je dois savoir situer ou préciser la personne qui doit m'aider, qui peut m'aider face à cette difficulté. On ne peut pas aller avec un problème d'un psychologue, aller avec ça chez les prêtres, au moins que ces prêtres soient psychologues. Voilà pourquoi il fallait prendre d'abord en charge cette question et savoir où trouver la solution.
Merci frère Yfin. Vous avez évoqué aussi la question de la route, non?
Oui.
Vous avez dit difficile, vous quittez l'université peut-être à 12 heures pour arriver à la maison à 20 heures. Ça, c'est la réalité de plusieurs jeunes étudiants congolais.
Oui.
Surtout ici dans la ville-province de Kinshasa.
Oui.
Une autre forme de pauvreté aussi.
C'est ça.
C'est-à-dire l'accès à un transport ou à un moyen de déplacement facile.
Ouais.
C'est devenu très, très, très compliqué, très difficile. Vous arrivez dans l'auditoire déjà fatigué. Mmh. Ou vous quittez l'auditoire pour arriver à la maison très fatigué. Vous n'avez même plus la force de revoir vos notes.
Ouais.
Alors, je vais rester là.
Oui.
Parce que la plupart des jeunes qui nous suivent
sont
des étudiants et ils traversent en fait marque des difficultés.
Mmh.
Alors, que doivent-ils faire comme jeunes, tout ça? Pensez que je reviens à la revendication. Je ne voudrais pas seulement chez les autorités, mais parfois aussi les chauffeurs, les receveurs font souffrir les gens.
Oui.
C'est-à-dire, vous prenez un transport, par exemple, à Mongafula pour arriver au rond-point, mais comme il y a embouteillage, vous voyez des gens qui s'arrêtent, un bus qui s'arrête à Elengesa, par exemple, entre Elengesa. Et vous voyez, dans tous les bus, les gens descendent, ils acceptent ça, ils payent de l'argent, ils descendent, ils vont faire les pieds à partir d'Elengesa jusqu'au rond-point. Une autre forme de pauvreté, d'esclavagisme même, je dirais. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que jeune intellectuel?
Moi, en tout cas ici, c'est d'abord les thèmes des embouteillages, surtout ici à Kinshasa, c'est un thème qui m'accable.
Vous en souffrez?
Oui, j'en souffre aussi. Alors moi, j'ai pensé à un truc, est-ce qu'on ne pouvait pas peut-être inviter même trois chauffeurs, qu'ils disent un peu exactement ce qu'ils pensent quand ils font ça. Parce que ça me dépasse, je me demande quand ils s'arrêtent partout. Certains vont dire nos routes n'ont même pas les stationnements et tout comme ça. Mais il y a des lieux où tu te dis que est-ce qu'il réfléchit celui-ci?
Non. Excusez-moi quand
oui.
même. Excusez-moi de vous couper à mi-chemin, mais j'ai déjà entendu un chauffeur se justifier.
Oui.
C'est-à-dire, ils disent que, bon, ils sont. Babou Lissaka. Par exemple, nous, quand nous sommes dans des véhicules personnels, c'est différent.
Oui.
Bango Babou Lissaka, c'est-à-dire, il cherche de l'argent.
De l'argent. Oui.
Et ça va avec la gestion du temps.
Mmh.
Dans un embouteillage, ça dit tout est bloqué.
Mmh.
Et tant pour eux, tant qu'ils ne se débrouillent pas pour trouver d'autres solutions et continuer à travailler, c'est-à-dire à fonctionner,
oui.
c'est comme un manque à gagner.
Oui.
Hein? Parce que eux aussi se disent que bon, tous au Bundapé côté Nabiso pour sortir de la pauvreté.
Entre guillemets.
Permettez-moi vraiment de réfléchir à leur place, mais j'ai déjà entendu un chauffeur et receveur se défendre de cette façon-là. Alors, est-ce que c'est juste cette façon-là de vouloir gagner, d'être même de façon malhonnête ou quoi? Je ne sais pas trop.
Moi, je pense que cette question doit remonter aux instances compétentes. Ils doivent voir un peu. Donc, les jeunes doivent revendiquer. Ça, en tout cas, moi, je pense que les jeunes doivent revendiquer que les ministres chargés des transports, les autorités qui s'occupent de les PCR, les polices de circulation routière, doivent vraiment s'impliquer, mettre de l'ordre. Punir avec amour, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire, ils doivent s'impliquer pour remettre de l'ordre, parce que là où l'homme n'arrive...
Ça, je vais ajouter, excusez-moi, la miséricorde n'exclut pas la justice.
Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense, ici, nous avons besoin de l'ordre. Et cet ordre ne peut pas venir de quiconque, mais ça doit venir des instances compétentes surtout les autorités qui s'occupent des circulations routières. Ils doivent vraiment mettre des restrictions. Donc, ils doivent publier. Moi, je pense qu'il est urgent même de publier un communiqué, par exemple, interdisant ce genre de choses. Et implanter les policiers. Je vois quand même il y a l'effort, par exemple à Elengue, ça vous allez trouver des policiers. Et quand ils quittent, c'est du désordre, c'est la jungle. Et moi je me dis, il fallait que l'État réagisse à cette situation parce que cette situation affecte la population et appauvrit davantage. Voilà pourquoi il serait mieux de réagir pour sauver non seulement les étudiants, mais la population dans son ensemble. Parce que maintenant, c'est presque tous les bureaux qui ouvrent en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a les embouteillages. Et les embouteillages, là, comme disait le professeur Maloba, ce sont des embouteillages qui viennent de quoi? De la tête. Donc, quand dans la tête, là, c'est bourré, et ça s'exprime là. Et ça traduit aussi de l'égoïsme. Parce que vous allez voir que là où c'est simple de laisser l'autre passer et puis continuer, et c'est tout le monde qui cherche à passer au bon moment, il bloque la route et on ne sait plus avancer et on ne sait plus, à force de chercher, d'être pressé, et on est bloqué là, on reste là pour 2 heures, 3 heures. Moi, je pense que c'est une question qui touche au développement de la population, du peuple, du social. Alors, l'État doit réagir carrément. Il faut qu'il y ait une revendication. Donc, les jeunes doivent exprimer à travers quoi? Ils utilisent les médias, les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement pour danser là-bas, mais c'est aussi pour exprimer ce que vous traversez, chers jeunes. Exprimer ce que vous traversez à travers vos réseaux sociaux. Et puis, cette voix qui parviendra aux autorités, on verra qu'il y aura une réaction. Ne laissez pas une seule personne pour réagir. Ainsi de... Vous tous, si nous tous nous nous engageons comme jeunes, contester quelque chose, vous verrez que ça va aller. Contester, c'est pas seulement quand nous perdons les matchs et puis casser les sièges. Non,
ça, c'est bien
ce n'est pas seulement ça. On doit contester aussi pour des choses capitales. On ne doit pas seulement dans la musique et tout qu'on sort, c'est là où on est identifié à cela. Nous ne sommes pas seulement cela. nous sommes aussi excellents. Alors, nous devons prendre en charge. Parce que nous voyons ici, s'il faut soutenir quelqu'un dans le mal, nous sommes là, nous filmons, nous publions. Mais s'il faut maintenant réagir pour que les choses changent, nous sommes incapables. Voilà pourquoi je vais inviter les jeunes à être conscients de cette situation que nous traversons nous tous, de publier partout, de parler de ça, de faire ça un sujet d'actualité et les autorités vont réagir. Si nous les laissons comme ça, nous pleurerons jusqu'à la fin des temps.
Frère Yvain, savoir parfois dire non oui. à certaines situations, ça c'est très important. Par rapport à cette situation de embouteillages,
oui.
moi je voudrais conseiller... je voudrais dire aux gens, aux jeunes par exemple, vous vous retrouvez dans un véhicule, vous êtes oui. déjà au moins 5 jeunes.
Mm-hmm.
Quand on ne vous amène pas jusqu'à la destination...
Ne payez pas.
Ne payez pas. Soit oui. ne descendez pas.
Ne descendez pas, restez là.
Si vous revendiquez ensemble, je ne pense pas qu'on va vous arrêter.
Non.
Parfois, nous ne savons pas nous-mêmes revendiquer nos droits.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on... On se victimise et on nous piétine facilement.
C'est ça.
Et ça, c'est pas aussi bon. Parfois, il faut savoir dire non. Parfois, il faut se révolter quand c'est quelque chose de bien.
Oui.
Comme le frère Riffet venait de le dire, c'est-à-dire ne pas seulement se révolter pour des niaiseries, des balivernes, mais aussi pour ce qui élève, pour vos droits, pour ce qui peut vous aider à vous améliorer et à vous développer.
Absolument.
En fait. Frère Riffin, une autre question, ça c'est simple.
Oui.
Pensez-vous que la pauvreté est un choix ou c'est une situation qui peut arriver en dépit de vos efforts? Est-ce que tous ceux qui sont pauvres là, ils le sont parce qu'ils l'ont voulu? Ou bien parce que peut-être ou c'est arrivé comme ça, c'est peut-être une situation de destin? Malgré eux, en dépit de leurs efforts, ils sont pauvres.
Moi, je pense que la pauvreté... Bon, j'exclus d'abord la pauvreté comme vœu, qui s'explique dans plusieurs dimensions.
Non, pas ça.
J'enlève ça.
L'histoire des vœux, là.
Oui,
non, là,
donc j'enlève cette dimension de la pauvreté. Mais moi, je dirais que la pauvreté, personne ne l'a choisie. La pauvreté fait mal. La pauvreté, c'est quelque chose qui dérange parce que c'est un manquement. Donc, on est dépourvu de quelque chose. On a besoin de quelque chose. On n'en a pas. Et pourquoi choisir cela? Et si nous devons prendre la dimension économique, on a besoin de se déplacer, on n'a pas de moyens. On a besoin de voyager, on n'a pas de moyens. On est malade, on veut se faire soigner, on n'a pas de moyens. Comment choisir cette situation? Comment vouloir vivre dans cela? On n'a pas d'eau, on n'a pas la liberté d'expression. On vit dans l'injustice. Qui choisirait l'injustice d'être victime? Qui choisirait cela? Alors, moi, j'ai dit que la pauvreté, c'est quelque chose qui vient. Et les vrais pauvres, c'est les vrais pauvres, ceux qui subissent. Parce que moi, je me dis même que la pauvreté, parfois, nous la subissons. Donc, nous ne choisissons pas d'être pauvres. Mais on se retrouve pauvres comme ça. Soit par les faits historiques, par l'histoire de notre vie... les circonstances tout autour, ainsi de suite. Donc la pauvreté, pour être bref, c'est une chose qui nous arrive sans la choisir. Et lorsqu'elle arrive, nous luttons pour s'en sortir, pour ne pas rester dans la pauvreté. On cherche à quitter cela.
Merci, frère Yves.
Ouais.
Excusez-moi encore de rester. C'est intéressant, hein, le thème d'aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas du travail.
Oui.
Mais, quelquefois, il se retrouve quand même d'être avec quelque chose, peut-être qu'on lui donne ou peut-être il a donné un coup de main ou peut-être il a été bénéficiaire d'une aide. Mais cette personne-là, une fois qu'il reçoit de l'argent, c'est pour aller boire, s'amuser. Et le même jour, tout ce qu'il avait reçu est fini. Il ne pense à rien, il ne sait pas entreprendre, tout ça. Même dans ce contexte-là, vous pensez que c'est pas un choix d'être, n'a pas choisi d'être pauvre, c'est pas trop, c'est pas.
Non, là, il a choisi d'être désordonné. Il a choisi d'être désordonné.
Lui-même.
Oui, oui. Il a choisi d'être désordonné. Donc, celui-là a besoin de l'ordre dans sa vie, d'organiser sa vie.
Ok.
Oui, oui.
Alors, Frère Ruffin,
ah oui.
Il a choisi d'être désordonné.
Oui.
Il n'a pas choisi d'être pauvre.
Non, il n'a pas choisi d'être pauvre.
Mm-hmm.
Oui.
Parce que si il était ordonné,
il ne serait
pouvait
pas,
peut-être
oui.
s'organiser.
Parce que la pauvreté fait mal.
Mm.
Celui-là, je l'appelle un faux pauvre.
Mm.
Parce qu'il a même des gens qui le soutiennent. Il y a des gens qui souffrent pour qui la première citation là que tu as fait montre là, un petit geste suffit pour te remercier. Donc, il sent la pauvreté sur sa peau. Donc, il ne peut pas s'amuser.
C'est lui-là
le pauvre. C'est celui-là le pauvre. Et vous allez voir que quand un vrai pauvre témoigne, même à la radio, quelqu'un qui était pauvre et puis comment il a cheminé, vous allez voir que ça, c'est vraiment un pauvre qui s'est démarqué, qui cherchait à quitter la pauvreté. Mais malgré ça, il y a les gens qui sont riches, ils cherchent à tomber dans la pauvreté économique surtout. Mmh. Ils cherchent vraiment à se rabaisser jusque-là parce qu'ils n'ont pas encore palpé des doigts à la pauvreté. La pauvreté fait mal. Il ne faut même pas la souhaiter, cette pauvreté surtout, pauvreté économique, pauvreté morale, pauvreté psychologique, même pauvreté politique. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable.
Mmh.
Tu as ta dignité, on t'enlève cette dignité. C'est une pauvreté. Qui aimerait vivre sans dignité? Non, tu n'es pas libre. Tu vis donc dans cet enfermement. Non, donc la pauvreté, c'est quelque chose qu'il faut combattre.
Merci. Combattre la pauvreté.
Oui.
Et dans ces combats, on reconnaît qu'il y a plusieurs jeunes qui se battent chaque jour, qui se battent quotidiennement pour en fait sortir de la pauvreté matérielle surtout.
Oui.
Qui peut-être n'ont pas encore les résultats escomptés. Alors, un dernier message à ces jeunes-là qui nous suivent, qui se battent chaque jour, qui se réveillent le matin pour aller chercher de quoi peut-être mettre sous la dent, mais qui ont du mal à décoller.
Oui.
Un mot d'encouragement, un mot de la fin, parce qu'on nous signale déjà du côté de la régie qu'il est presque temps.
Ouais. Et ces mots d'encouragement, de la fin, c'est même le message principal de cette année jubilaire. Mmh. C'est le message principal de quoi ? De la lettre, du message du pape pour la journée
de la journée mondiale des pauvres que nous fêterons.
Voilà, je les invite à l'espérance. Persévérer dans l'espérance tout en travaillant, ça se passera bien. Donc l'espérance, c'est le dernier mot qui doit couronner tout ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui.
Merci Frère Yvain. C'est donc sur cette note de l'espérance que nous allons nous arrêter. Nous vous disons merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices qui nous avez suivis avec attention. Merci surtout au frère Ruffin Paulinien pour son partage, pour son expérience, pour tout ce qu'il a raconté, des très riches qui peuvent vous aider, chers jeunes. Et merci à notre sœur, à la technique, notre sœur Gina, qui nous a aidés. Et vous avez suivi votre humble serviteur, Omer Dié, la missionnaire de Saint-Paul. Et nous osons croire vous retrouver la semaine prochaine avec ce même thème, puisque c'est très intéressant. Il y a des perspectives que nous n'avons pas encore abordées. Et il ne nous reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end et surtout pour demain, bonne journée mondiale des pauvres. Ne manquez pas de poser un geste concret d'affection envers le pauvre que vous allez rencontrer. Merci beaucoup et ciao.
Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me monte la voix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lune.